France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Après sa spectaculaire opération toile d'araignée contre des aérodromes militaires en Russie, la Crimée, l'Ukraine revendique une attaque surprise contre le pont de Crimée. Nous ferons le point avec Sylvain Tronchet depuis Moscou. Malgré une décision de justice, le gouvernement allemand ne compte pas revenir sur sa politique de refoulement de demandeurs d'asile aux frontières, une décision qui crée des remous politiques. Nous irons à Berlin. À Nice, le sommet de l'ONU sur les océans est précédé d'un congrès scientifique international. Les experts de l'océan espèrent faire entendre leurs recommandations basées sur la recherche. Reportage de Cécile de Kervas-Doué. L'histoire des rapatriés d'Indochine sort de l'oubli. Une proposition de loi vise à reconnaître les souffrances endurées par ces quelques 40 000 personnes qui fuyaient la guerre et ont été parquées dans des camps à leur arrivée en France. Jeanne Serra nous en dira plus. L'Ukraine avait déjà frappé fort dimanche avec son opération Toile d'araignée. Des drones avaient alors détruit ou endommagé des bombardiers russes, situés pour certains d'entre eux à plusieurs milliers de kilomètres du territoire ukrainien. Aujourd'hui, le service de sécurité d'Ukraine déclare avoir frappé un site très symbolique, le pont de Crimée qui relie la Crimée à la Russie, à l'aide d'explosifs placés sous l'eau sur les piliers. L'Ukraine accentue donc sa pression sur la Russie, Sylvain Tronchet.
À deux reprises, le pont de Crimée a dû être fermé à la circulation aujourd'hui. Tout d'abord tôt ce matin, vers 6h, en raison d'une explosion sous-marine au pied de l'une de ses piles, les services ukrainiens ont diffusé une vidéo montrant une explosion provoquant une grande gerbe d'eau. Ils affirment avoir endommagé la structure, mais la circulation a néanmoins repris avant d'être de nouveau interrompue pendant 2 heures en cette fin d'après-midi en raison d'un risque d'attaque de drones navals. Si le pont, qui avait été déjà 2 fois visé depuis le début de la guerre, semble opérationnel, ces opérations mettent un peu plus la pression sur les autorités de Moscou au moment où de nombreux touristes russes envisagent d'aller en vacances en Crimée cet été en passant par le pont, que ce soit en train ou en voiture. En communiquant de nouveau sur cette opération, Kiev envoie un nouveau message à Moscou après les attaques contre des bases aériennes de ce dimanche et les explosions qui ont visé des trains. Le Kremlin n'a toujours rien commenté à l'heure qu'il est et dans les milieux les plus radicaux en Russie, nombreux sont ceux qui réclament maintenant des représailles.
Sylvain Tronchet à Moscou pour France Culture. La Russie accuse par ailleurs l'Ukraine d'être à l'origine des explosions ayant provoqué l'effondrement de 2 ponts le week-end dernier et des accidents de train. Ils ont fait 7 morts et plus d'une centaine de blessés, dont des enfants. En Allemagne, malgré une décision de justice défavorable, le nouveau gouvernement du chancelier Friedrich Merz maintient les refoulements aux frontières. La mesure concerne les demandeurs d'asile qui se présentent aux frontières allemandes et qui ne sont pas considérés comme vulnérables. Cette pratique est dénoncée par certains pays voisins de l'Allemagne et par les partis d'opposition. Nous retrouvons à Berlin le correspondant de France Culture en Allemagne. Bonsoir Sébastien Baer.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Le point de départ de cette affaire, c'est un recours déposé par 3 Somaliens refoulés à la frontière.
Oui Aurélie, ils arrivaient de Pologne en train et souhaitaient se rendre à Berlin, mais la police leur a interdit de franchir la frontière. Les 3 Somaliens ont saisi la justice qui leur a finalement donné gain de cause. Le tribunal administratif estime que les Somaliens auraient dû être accueillis en Allemagne pour que leur dossier soit examiné, pour déterminer quel pays européen est responsable de leur demande d'asile. C'est l'application de la procédure dite de Dublin. Mais ce revers judiciaire ne change rien pour le gouvernement qui entend bien poursuivre les refoulements juridiquement fondés selon le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt explique que l'Allemagne n'a pas les moyens de gérer le nombre élevé de demandeurs d'asile. Depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition de Friedrich Merz le 6 mai dernier, 2850 migrants ont déjà été refoulés aux frontières. Friedrich Merz avait promis pendant sa campagne de durcir la politique d'asile après plusieurs attaques meurtrières impliquant des étrangers. C'est une rupture véritablement avec la culture de l'accueil des années 2015-2016 de l'ancienne chancelière Angela Merkel. La nouvelle coalition a aussi réduit les conditions du regroupement familial et souhaite mettre fin au mécanisme de naturalisation accélérée dont pouvaient profiter les réfugiés jugés bien intégrés. Avec cet arsenal de mesures, Friedrich Merz et son gouvernement espèrent freiner la progression de l'extrême droite, première force d'opposition désormais en Allemagne depuis les élections législatives du 23 février.
Merci Sébastien Baer, vous étiez en direct de Berlin. Ce sont justement des désaccords sur la politique migratoire qui entraînent la chute du gouvernement néerlandais. Le dirigeant d'extrême droite Geert Wilders retire son parti de la liberté de la coalition au pouvoir. Le Premier ministre Dirk Schroof qualifie cette décision d'irresponsable. En Corée du Sud, le leader de l'opposition de centre-gauche, Lee Jae-myung, remporte l'élection présidentielle. D'après les premières estimations, à 20h à Séoul, il a obtenu 51% des voix contre 39%. Pour son rival. Après 6 mois de crise politique depuis la destitution de l'ex-président Yoon Suk-yeol, les Sud-Coréens ont fait le choix de rompre avec le parti de l'ancien président. Le reportage à Séoul de Celio Fioretti.
Les soutiens en liesse du nouveau président sud-coréen. Au QG du Parti démocrate, l'ambiance était survoltée après la victoire du candidat de centre-gauche, Lee Jae-myung. À 61 ans, cet enfant ouvrier devenu avocat du travail, puis politicien, est le 14e président de la République de Corée. Il prend aujourd'hui sa revanche sur l'ex-président destitué Yoon Suk-yeol, face auquel il avait perdu d'un cheveu en 2022. Connu pour ses politiques sociales innovantes, promoteur d'un revenu universel, il a mis de l'eau dans son vin pour cette campagne afin de rassembler le plus d'électeurs autour de lui, se déclarant même comme un conservateur modéré pour parler aux électeurs de droite. Survivant à une attaque au couteau en janvier 2024, il est devenu la figure incontestable de l'opposition lors de l'épisode de la loi martiale en décembre de la même année. Désormais à la tête de la Corée du Sud, Lee Jae-myung devra composer avec un pays fortement divisé, dont une part non négligeable de la population soutient encore l'ex-président Yoon Suk-yeol. De nombreux défis à relever pour le nouveau président, dont les 5 prochaines années s'annoncent déjà tumultueuses.
C'est Leo Fioretti à Séoul. Le Canada brûle, d'immenses brasiers font rage dans le centre et l'ouest du pays. Près d'une centaine sont hors de contrôle, 2 provinces en état d'urgence et plus de 25 000 personnes ont dû être évacuées. Le pays fait face à l'un de ses pires débuts de saison depuis des années, Nafi Alibert.
Au centre du Canada, les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan sont en état d'urgence. Elles sont frappées depuis plusieurs jours par des incendies d'une ampleur exceptionnelle. Au Manitoba, la province la plus touchée, 200 000 hectares sont déjà partis en fumée en un seul mois, une surface que l'on voit généralement brûler sur 3 ans. Les pompiers, eux, sont des centaines à lutter sans relâche, mais la météo ne leur laisse aucun répit. Chaleur extrême, vent violent et toujours pas de pluie en vue. Les brasiers ont forcé l'évacuation de plus de 25 000 personnes au Manitoba, en Saskatchewan, mais aussi dans la province voisine de l'Alberta, où des incendies progressent également. Beaucoup de ces sinistrés sont acheminés vers le sud de ces provinces, mais le manque de place dans les centres d'accueil se fait cruellement sentir. Certains d'entre eux ont même dû être envoyés à des milliers de kilomètres jusqu'en Ontario, faute de lits et d'infrastructures disponibles plus près. Face à l'ampleur de la crise, un débat d'urgence sur les feux de forêt s'ouvre aujourd'hui à Ottawa. Pendant ce temps, la fumée gagne du terrain et étouffe même certains États américains.
Et des fumées provenant de ces feux de forêt ont même traversé l'Atlantique, atteignant l'Europe ces derniers jours. Quelques 2000 scientifiques venus de plus de 100 pays sont réunis à Nice jusqu'à vendredi, en amont de la conférence des Nations Unies sur l'océan, qui s'y tiendra la semaine prochaine. Ils ont l'objectif de proposer des recommandations claires qui permettront aux dirigeants d'agir pour mieux protéger l'océan, avec cette idée que pour agir, il faut d'abord mieux comprendre. Et dans le cas de l'océan, c'est un véritable défi, Cécile de Kervaz-Doué.
Oui, mieux faire entendre la parole scientifique sur l'océan, c'est effectivement l'objectif de ce congrès qui pourrait y parvenir, a notamment mis en place un partenariat entre une dizaine de jeunes chercheurs du programme ICOP des Nations Unies et des jeunes journalistes s'exprimant tous dans 10 langues différentes. Réa Topil est doctorante en écologie marine à la Sorbonne Université. Elle a été sélectionnée pour vulgariser en hindi sa recherche sur l'impact du changement climatique sur les microbes de l'Antarctique.
Je pense que ma plus grande difficulté, c'est que la science que je fais est compliquée à comprendre. Ma recherche s'appuie sur la situation catastrophique du phytoplancton de l'Antarctique. Il souffre du dérèglement climatique et ne parvient plus à relâcher de l'oxygène dans l'atmosphère. Mais avec la fonte des glaciers, il peut aussi récupérer du fer qui est issu de cette glace. C'est un nutriment essentiel pour le phytoplancton car il lui permet de survivre.
Et donc de continuer à jouer un rôle de régulateur de notre climat pour le bien-être de l'humanité notamment. Et ce travail scientifique va être expliqué sur les réseaux sociaux à un public de non-spécialistes, et ce grâce à un binôme de la chercheuse, une journaliste du CELSA.
Il ne faut pas que ce soit une connaissance qui soit maintenue dans une tour en cristal et qu'on n'y ait pas accès, parce que je pense qu'il y a des thématiques qui sont très importantes. En fait, par exemple, l'exploitation des fonds marins, c'est des choses, on a besoin de savoir les tenants et les aboutissants. Il y a une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale à ce sujet il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est des décisions qui nous concernent.
Contrairement aux États-Unis, la France fait effectivement partie des 32 pays à avoir adopté par mesure de précaution un moratoire de 10 ans sur l'exploitation minière des grands fonds marins. Un sujet qui animera Aurélie plusieurs des 500 conférences scientifiques prévues ici durant les 3 jours de ce congrès, avec l'idée d'éclairer non seulement le grand public, mais surtout les dirigeants politiques. Et c'est ce que répète le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, qui a rencontré ce matin ces jeunes chercheurs.
Un des messages, c'est bien de dire justement, vous êtes là pour éclairer la décision publique. C'est-à-dire qu'il faut que non seulement vous fassiez avancer vos sujets, regrouper des connaissances qui sont très pluridisciplinaires pour arriver à expliquer tout ça aux politiques, aux décideurs. Et ça, c'est tellement compliqué, mais c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que la science, elle est partout. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit une défiance qui arrive sur les questions scientifiques.
Une défiance d'autant plus grande aujourd'hui que la recherche sur l'océan est sous-financée dans le monde entier, bien moins que l'espace, hein, par exemple, alors qu'aujourd'hui encore, on n'en connaît finalement que 5%.
Cécile de Kervas-Doué en direct de Nice avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Sans surprise, le Sénat s'est massivement opposé à la réforme du scrutin municipal pour les villes de Paris, Lyon et Marseille. Ils étaient sollicités en première lecture sur une proposition de loi déjà adoptée à l'Assemblée nationale. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Aurélie.
Ce rejet complique, Antoine, les chances d'adoption définitive du texte à moins d'un an des élections municipales.
Effectivement, cette réforme est soutenue par le gouvernement qui peut désormais choisir de convoquer une commission mixte paritaire. Une option risquée car il est très peu probable que les députés et les sénateurs s'entendent sur ce texte. Dès lors, le gouvernement pourrait choisir d'enterrer le texte ou de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. François Bayrou est favorable à cette réforme, il l'a dit à plusieurs reprises, mais politiquement, la situation est compliquée pour lui, car la proposition de loi est aussi soutenue par ses principaux opposants, LFI et le RN, de quoi l'inciter à réfléchir à deux fois avant de poursuivre l'examen de ce texte, selon le constitutionnaliste Benjamin Morel.
Ça serait parier sur ses opposants contre sa propre majorité, et surtout contre la majorité du Sénat. Or, il faut voir que même si théoriquement il peut donner le dernier mot à l'Assemblée, le gouvernement a particulièrement besoin du Sénat et de la majorité sénatoriale avec qui il a co-construit le dernier budget et avec qui il aura besoin de co-construire le prochain budget. Donc en la matière, donner le dernier mot à l'Assemblée nationale contre la majorité sénatoriale serait politiquement extrêmement compliqué.
Ce serait politiquement compliqué, mais ce serait possible, y compris quelques mois avant le scrutin. Mais le jeu en vaut-il la chandelle pour François Bayrou ? Va-t-il aller jusqu'au bout de cette réforme et prendre le risque d'aggraver les tensions avec la droite ? Ou va-t-il renoncer à une réforme qu'il a défendue pour épargner sa majorité déjà fragile ? François Bayrou joue peut-être là en partie la survie de son gouvernement.
Antoine Maret, mettre un terme à une injustice de l'histoire, c'est l'ambition portée par une proposition de loi socialiste examinée ce soir à l'Assemblée et qui vise à réparer les préjudices subis par les rapatriés d'Indochine et à leur accorder la reconnaissance de la nation. Un épisode méconnu de l'histoire mais qui porte en lui le récit d'une grande injustice d'après les derniers survivants. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. C'est une reconnaissance qui arrive tardivement, mais qui était très attendue, Jeanne.
Oui, on estime entre 300 et 500 le nombre de rapatriés encore en vie et qui se voient comme les grands oubliés de l'histoire. Quelques centaines donc. Aujourd'hui, ils étaient des milliers français, 44 000 en 1954 après la signature des accords de Genève, de ressortissants à être rapatriés en France. Certains par avion, la plupart dans des cales de bateaux. Et à leur arrivée en France, femmes et enfants majoritairement seront parqués dans des camps situés dans l'Allier et le Lot où ils subissent les manquements de l'État, vivent dans la misère, des lotissements sans eau, parfois sans chauffage. On les soumet à une discipline militaire, couvre-feu et salut au drapeau obligatoire. Et cette situation qui aurait pu être provisoire a en réalité duré des années. Le camp de Sainte-Livrade dans le Lot n'a officiellement fermé ses portes qu'en 2014. Des années dans le silence, d'autres diraient passées sous silence. Mais depuis la reconnaissance des préjudices subis par les harkis à leur retour d'Algérie et leur indemnisation rendue possible par une loi votée en 2022, les rapatriés d'Indochine demandent à leur tour cette reconnaissance. Une requête entendue donc par les députés du groupe socialiste et le premier secrétaire du parti, Olivier Faure, lui-même enfant d'une mère vietnamienne. Rapporteur du texte, sa proposition de loi prévoit donc d'indemniser les derniers survivants et de créer une journée d'hommage le 8 juin. Le texte devrait être adopté ce soir sans difficulté, sous le regard d'une dizaine d'anciens rapatriés installés en tribune pour vivre ensemble ensemble ce moment qu'ils attendent pour certains depuis 70 ans.
Jeanne Serrin à l'Assemblée avec Florent Bujon à la technique. La séance des questions au gouvernement à l'Assemblée a notamment porté sur les violences qui ont eu lieu ce week-end après la victoire du PSG. Interrogé par le député et président du groupe Horizon Paul Christophe, le Premier ministre François Bayrou s'est dit favorable à l'instauration de peines minimales pour dissuader les auteurs de violences. Un Coran a été volé et brûlé dans une mosquée de Villeurbanne dans la banlieue de Lyon. Le Conseil des mosquées du Rhône dénonce un acte islamophobe d'une extrême gravité. Une plainte a été déposée et une enquête ouverte. Et puis, les personnes soupçonnées d'avoir aspergé de peinture verte 5 lieux juifs à Paris sont des hommes, tous trois ressortissants serbes. Les suspects s'apprêtaient à quitter le territoire au moment de leur arrestation. Alors qu'une proposition de loi visant Shein et Temu a été examinée hier au Sénat, une grande majorité des commerçants français se sont alliés pour demander au gouvernement le déréférencement des sites des géants asiatiques. Ces deux acteurs de l'ultra fast fashion mode ultra express et de l'e-commerce ainsi que AliExpress sont accusés par les commerçants d'incitation à la surconsommation, de pollution environnementale et de concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises européennes. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Est-ce qu'il est possible d'accéder à cette demande des commerçants ?
Alors la loi française donne effectivement les moyens à la DGCCRF d'agir. Dans son bilan de l'an passé, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne parle pas de déférencement mais de réquisition numérique. 87 ont été prononcées en 2024. C'est une mesure corrective qui intervient avant la sanction financière ou judiciaire et après l'injonction administrative. Cette procédure a même été jugée conforme à la Constitution en juillet 2022 puis facilitée par la transposition l'an dernier dans la loi française de plusieurs règlements européens sur l'espace numérique. Les arguments que font valoir les commerçants français et leurs représentants, c'est que les produits de ces trois marques chinoises, vendues exclusivement sur Internet, franchissent les frontières sans filtre ni contrôle, ce qui pose selon eux des problèmes de sécurité. À l'appui du courrier qu'ils ont envoyé à Bercy, ils citent cette étude de la Fédération européenne des jouets qui a montré que 100% des jouets testés ne respectaient pas les normes européennes et que 95% représentait un risque réel pour la santé des plus fragiles. Dans un communiqué, le porte-parole français de Shein a rétorqué avoir investi 13 millions d'euros cette année pour la conformité et la sécurité de ses produits, soit un quart de plus que l'an dernier, mais c'est tout de même peu comparé aux quasi 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires du géant chinois au niveau mondial. Le deuxième argument des commerçants français, c'est la concurrence déloyale que ces plateformes représentent puisqu'elles ne paient pas la TVA ni les droits de douane. Alors il y a donc manifestement matière à se saisir du dossier, mais la DGCCRF l'a-t-elle déjà fait ? Si oui, où en est son enquête ? Sinon, va-t-elle lancer une procédure ? Impossible à dire à ce stade, faute de réponse.
Marie Viennot, en réaction au scandale des eaux en bouteille Nestlé, l'UFC Que Choisir annonce engager trois actions en justice, une assignation en référé et deux dépôts de plainte, dont l'une contre plusieurs ministres. Le 19 mai, les conclusions du rapport de la commission d'enquête sénatoriale ont confirmé l'utilisation illégale de traitements en raison de contamination à la source. On a également appris que le gouvernement, le préfet du Gard et l'agence régionale de santé d'Occitanie s'étaient entendus avec Nestlé pour faire disparaître d'un rapport des éléments importants sur la qualité sanitaire des forages exploités pour produire la marque Perrier. Des conclusions accablantes donc. Aujourd'hui, l'UFC Que Choisir dénonce l'inaction des pouvoirs publics pour garantir la protection des consommateurs, Jeanne Stémar.
Avec ces trois actions en justice, l'UFC Que Choisir entend viser l'ensemble des personnes responsables de ce scandale. L'association demande en urgence au président du tribunal judiciaire de Nanterre le retrait du marché et le rappel des produits, l'interdiction de leur commercialisation et la fin de l'appellation eau minérale naturelle. Une audience est déjà prévue au début du mois de juillet. Deux plaintes ont aussi été déposées, l'une contre Nestlé Waters pour falsification aggravée, tromperie aggravée et pratique commerciale trompeuse, l'autre contre quatre ministres ou anciens ministres, parmi lesquels Agnès Pannier-Runacher, à l'époque ministre déléguée à l'industrie, et Roland Lescure, qui lui a succédé. Magali Butard est responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir.
On souhaite, à travers cet arsenal d'actions et cette offensive judiciaire, mettre un coup d'arrêt à ce scandale, que la justice se saisisse pleinement de la question de la responsabilité de tous ces acteurs et à tous les niveaux, à tous les échelons. Il faut que les industriels comprennent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'information qu'on délivre aux consommateurs, avec la façon dont on vend les produits. Et puis avec la réglementation dans sa globalité, parce que la Nestlé n'est toujours pas dans les clous de la réglementation.
Fin mai, suite à la publication du rapport parlementaire sur la fraude aux eaux minérales mise en œuvre par le groupe Nestlé, le gouvernement a envoyé une circulaire à toutes les agences régionales de santé pour leur rappeler la réglementation sur les eaux minérales et lancer un plan d'inspection de toutes les usines de conditionnement.
Jeanne Stémard, les nuages domineront demain. Sur l'Est, le temps sera orageux. Les orages deviendront forts l'après-midi de la Franche-Comté à Rhône-Alpes. Au petit matin, il fera de 10 à 20 degrés du nord au sud. Les maximales seront en nette baisse, comprises entre 16 et 25 degrés.